Now the question still remains, which side loses, which side gains a grain of sand? That is time. Tonight this town will turn to dust, the morning dew will turn to rust. It's about time, so take a sign. I guess it all boils down to weather.
Il est 7h en temps universel, merci d'écouter RFI. Le journal international avec vous, Lisa Billy.
Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous. Israël qui rejette la dernière feuille de route américaine pour Gaza. Une annonce hier du Premier ministre israélien en campagne à 2 mois et demi des législatives. Et la décision divise la société israélienne. Nous serons à Jérusalem dans quelques instants. Après les attaques de drones ukrainiennes sur les réserves de pétrole russe, la Russie connaît une crise de carburant. Et elle se propage aux pays qui dépendent de ses ressources, comme la Mongolie. Reportage à suivre. Tous les tests sont négatifs. Le soulagement aux portes de Kinshasa. L'alerte a été levée après l'immobilisation d'un bateau pour suspicion d'Ebola. Le ministre de la Santé annonce ce matin un renforcement des contrôles. C'est l'un des rappeurs les plus connus de la planète, Tupac, décédé il y a maintenant 30 ans, visé par des tirs en pleine rue à Los Angeles. Un procès très attendu s'ouvre ce lundi pour peut-être faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Et puis du sport à la fin de ce journal, nous serons au championnat d'Europe de natation où le sportif français Léon Marchand a dû voir ses ambitions à la baisse. Il a été blessé.
Israël ferme donc officiellement la porte au plan de paix américain.
Benjamin Netanyahou a été catégorique hier soir pendant sa réunion hebdomadaire avec ses ministres. Il a rejeté la feuille de route en 15 points proposée par Washington. Sa réponse, le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza n'aura pas lieu avant le désarmement total du Hamas. Le Premier ministre pris en étau à l'approche des élections législatives entre ses alliés d'extrême droite et son principal allié militaire, les États-Unis. Michel Paul est allé sonder les réactions de la population profondément divisée. Reportage à Jérusalem.
Le couperet est tombé au bureau du Premier ministre à Jérusalem. Aucun retrait militaire de Gaza sans désarmement intégral du Hamas. En rejetant le plan international en 15 points, Benjamin Netanyahou suscite un vif désaccord dans les rues. Shai est un réserviste en permission, venu se rafraîchir à une terrasse de café du centre-ville.
C'est une honte absolue, le refus de Netanyahou d'envisager la moindre perspective et de prendre ses responsabilités. Au lieu de poursuivre ce massacre sans fin, c'est un drame pour des générations.
Une impasse politique que certains attribuent directement au choix de stratégie du Premier ministre Gaza, comme le dénonce Roni.
Il va tout faire pour faire capoter n'importe quel plan tant que ça sert ses intérêts. Il faut absolument que nous sortions de là-bas tout en exigeant qu'ils soient désarmés.
Mais face à ces critiques, la ligne de fermeté affichée par le gouvernement conserve de fervents partisans pour radis la sécurité. Prime surtout.
Ma réponse, c'est qu'aucun retrait de l'armée ne doit avoir lieu tant que nous ne sommes pas certains qu'il n'y a plus aucun danger pour Israël. Notre sécurité est prioritaire. Le coup que nous avons subi était trop lourd.
Et entre rejet du gouvernement et impératif de sécurité, la société israélienne demeure profondément fracturée face aux suites du conflit. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Le PKK appelé à déposer les armes en Turquie.
Le parti des travailleurs du Kurdistan en voie de dissolution. Que vont devenir ces combattants après plus de 40 ans de lutte armée contre Ankara? Les députés turcs vont examiner ce lundi un projet de loi soumis par le gouvernement qui prévoit un retour à la vie civile pour une partie des combattants. Un texte pourtant dénoncé hier par la direction du PKK. Il comporte selon elle des erreurs, des lacunes concernant la démocratisation et le règlement de la question kurde. Les responsables demandent aussi une nouvelle fois la libération de leur fondateur Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 27 ans. En Syrie voisine, l'avenir des bases russes se précise. Damas a annoncé hier être parvenu à un accord après un an et demi de négociations. Selon le ministère syrien des Affaires étrangères, les installations militaires du port de Tartous et de l'aéroport de Rmeymim seront transformées en centres de formation conjoints. Elles avaient jusque fin 2024 été utilisées par la Russie pour soutenir Bachar al-Assad.
Et on y reviendra largement dans le prochain journal. La Russie visée par des attaques de drones ukrainiens cette nuit.
Des attaques qui ont fait plusieurs morts dans deux régions russes selon les autorités locales. Au total, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir intercepté plus de 450 engins dans la nuit. Certains ont frappé à 1600 km de la frontière ukrainienne dans le Tatarstan. Nijnekamsk a été la cible d'attaques massives selon le maire de cette ville qui abrite une importante raffinerie de pétrole.
Et ces attaques de drones ukrainiens contre les infrastructures pétrolières russes intensifiées depuis le printemps, elles causent désormais des pénuries de carburant en Russie.
Et la crise se propage aux pays qui dépendent de ces ressources russes. En Mongolie, par exemple, voisine de la Russie. 95% de l'essence est importée de la Russie et les Mongols doivent donc faire face au quotidien à ces conséquences indirectes de la guerre en Ukraine, Étienne Cholez.
Des hommes dorment par terre, sur le trottoir, à côté de la station-service. Shin Bayar, 45 ans, vient de se réveiller de sa sieste sur le béton.
Ça fait 3 heures que j'attends ici et je suis tout au bout de la file. Sincèrement, depuis une semaine, je passe la moitié de mon temps à attendre pour remplir mon réservoir.
Cette station-essence n'est même pas encore ouverte, vide depuis la veille. Mais Sayarna, un chauffeur pour touristes, a laissé sa camionnette toute la nuit devant la barrière. Il veut être certain d'être le premier servi.
Tout est galère. Je travaille moins, je perds de l'argent dans la période de l'année où j'en gagne le plus normalement. Là, je dois amener une famille à un mariage cet après-midi. Si le camion d'essence n'arrive pas dans une heure, je vais devoir annuler.
Car personne ne sait quand ce camion pourra ravitailler la station essence, pas même ses employés comme Ron Goro. Elle patiente sur une chaise de camping.
On est stressé. Hier, après le passage du camion de ravitaillement, on a vidé les cuves d'essence en moins de 3 heures.
Pour éviter les scènes de chaos, le gouvernement mongol a pris des mesures jusqu'au 15 août. C'est 50 000 tugrik, la monnaie locale, maximum par voiture. Ça fait une quinzaine de litres d'essence et un jour sur deux en fonction du dernier chiffre de sa plaque d'immatriculation. Étienne Cholez, Oulan-Bator, RFI.
La guerre en Ukraine et celle au Moyen-Orient qui ont aussi participé à faire augmenter le coût de la vie en Zambie. C'est la thématique de la campagne qui se termine avant les élections générales de jeudi. Les électeurs devront choisir parmi 14 candidats à la présidence et élire aussi leurs députés à l'Assemblée nationale.
En RDC, fin de l'alerte autour du bateau immobilisé aux portes de Kinshasa en raison d'une suspicion d'Ebola.
L'embarcation et ses passagers ont été libérés. Les vérifications effectuées à bord n'ont révélé aucun cas d'Ebola. Les autorités sanitaires ont également pu retracer le parcours du bateau et corriger certaines des informations qui avaient conduit à son interception. Écoutez le ministre de la Santé, Roger Camba, qui fait le point au micro de Passion Ligaudi.
Nous avons fait arrêter le bateau et évaluer tous les passagers. Il y en avait 7 qui présentaient des symptômes de maladie ordinaire, mais nous avons quand même testé. Les tests sont tous revenus négatifs. Le bateau, donc, nous l'avons finalement libéré. Mais d'autre part, nous avons installé de manière permanente maintenant, à ce point-là, donc à 65 km de Kinshasa, un système de surveillance de santé qui va stopper tous les bateaux qui descendent. Tous sans exception, pour nous assurer effectivement qu'il n'y ait pas de risque de contamination de Kinshasa par cette voie-là. Ensuite, nous allons émettre un formulaire pour tous les marins, pour tous ces gens qui prennent des bateaux, pour nous signaler leur départ et le nombre de personnes à bord, s'il y a des cas qui touchent à la santé publique.
Roger Camba, le ministre congolais de la Santé.
Cette question à présent, Lisa. Qui a tué le rappeur américain Tupac?
Il est mort en septembre 1996, quelques jours après avoir été la cible de tir en pleine rue à Las Vegas. 30 ans donc après sa mort. Un procès s'ouvre ce lundi pour tenter de résoudre ce meurtre. Celui de Duane Davis, dit Kif D. Gwendal Lavina, il est accusé d'avoir organisé et participé à cet assassinat jamais élucidé.
Dans les années 90, Tupac Shakur est l'un des rappeurs les plus connus de la planète. Son meurtre, alors qu'il circulait en voiture à Las Vegas, est donc particulièrement scruté. Mais pendant des années, l'enquête piétine. Les 4 occupants de la Cadillac blanche qui transportaient le tireur restent introuvables. Le mystère a toutefois commencé à se dissiper ces dernières années, puisque Kif D, ancien trafiquant de drogue et ex-chef de gang, a affirmé à plusieurs reprises publiquement être impliqué dans l'assassinat du rappeur sur fond de rivalité. Arrêté en 2023, l'homme de 63 ans plaide non coupable aux accusations d'avoir fourni l'arme qui a servi à tuer Tupac. Les 3 autres occupants de la voiture identifiés depuis sont eux décédés. Dans ses mémoires publiées en 2019, Kif D écrivait avoir participé à l'expédition meurtrière avec d'autres membres de son gang de Compton, un quartier de Los Angeles. Désormais, Kif D affirme qu'il a menti pour vendre son livre et se mettre en avant. Le procès prévu pour durer 4 semaines permettra peut-être de conclure cet épisode de la culture urbaine américaine. Gwendal Lavina, New York, RFI.
À Paris, il est 9h10. En France, le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse continue de faire débat.
Il y a quelques jours, le groupe clandestin FLNC.
Oh, again. All things go, all things go. Drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind. In parking lots. I don't mind, I don't mind. I was in love with the place. In my mind, in my mind, I made a lot of mistakes. If I was crying in the van with my friend, it was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes.
You came to take us. All things go, all things go. To recreate us. All things grow, all things grow. We had a mindset. All things know, all things know. You had to find it. All things grow.
c'est Marvin. Oui, ton cousin Marvin Perry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau, hein? Bon, alors, écoute ça.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif.
C'est désagréable à l'oreille, mais enfin, c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur l'amélioration de fréquence.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.
La la la.